Alors maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps? Ah ben par exemple, écouter lire. Ah oui, bonne idée. Écouter lire, l'émission de Radio Alto, c'est maintenant.
Bonjour. Écrite sur le thème « Un si petit détail », voici deux nouvelles, piquantes et douces amères, de Corvol Courriel et de Yolande Demirdequier, Épiphanie. Courriel. Jean Serrien, détective privé 7 cours de l'image 88000 Épinal, à Madame P. Doncule, 3 quais de l'océan, 88020, Ballon, Les Épinal, jeudi 25 février 2021. Objet, votre demande. Madame, suite à notre entretien impromptu du 12 novembre dernier, et à mes investigations inhérentes, veuillez trouver ici mes conclusions succinctes quant à vos origines. Vous êtes né en 1976 dans un train, pas n'importe lequel. Après tant d'infructueux essais de grossesse, votre mère vous portait enfin. Elle avait pris place, depuis Paris, à bord de l'Orient Express, afin de rejoindre votre père, diplomate fraîchement nommé à Vladivostok. Celui-ci y avait trouvé finalement, fruit de moult recherches ardues, un habitat digne d'accueillir sa jeune épousée et votre naissance, donc. La perle rare, on peut le dire, un lumineux et vaste appartement avec vue sur la baie de l'amour, en face de Beregovoy, Pliaz, plage. Mais le sort en a décidé tout autrement. Vous avez vu le jour un peu prématurément après la correspondance ferroviaire de Moscou à bord du transsibérien entre Irkoutsk et Oulan-Houd, près du lac Baïkal. C'était le 29 février. Quel émoi dans le compartiment quand se firent sentir les premières douleurs soudaines et vite violentes et rapprochées. J'ai pu lire le rapport de la jeune chef de wagon de l'époque. Sans se démonter, et telle une experte matrone aguerrie, elle prit les choses en main. Elle distribua les tâches aux volontaires, expédia le reste des voyageurs, se tassait au fond du wagon, se fit apporter l'eau chaude du samovar et des linges propres, et vous attendit de pied ferme. Ce ne fut pas bien long. Bientôt, vos premiers cris furent accompagnés par les vivas des voyageurs, les berceuses des balalaïkas et forces rasades de vodka partagées par l'assistance émue et baignant dans les inévitables effluves sui generis des voyageurs au long cours. À l'arrivée, au terminus, votre père, piaffant sur le quai de la gare, accueillit ravi votre mère et, ébahi, vous découvrit, madame, nouvelle-née, au fond d'un ortina, couffin de fortune. En vraie sidération, il s'affaissa. La chef du wagon fut de nouveau mise à contribution pour lui éviter la syncope à grands coups de soufflet bien placés. En dépit de cette fragilité émotionnelle toute masculine, votre géniteur était ce qu'il convient d'appeler un bel homme avec une présence, une vraie prestance et un athlète. Il avait pratiqué l'aviron pendant toute sa jeunesse. Parisien de naissance, tout comme votre mère, il l'avait rencontré dans un de ces rallyes mondains organisés par la haute pour favoriser les alliances entre soi. Ils se plurent et se marièrent. Après l'ENA, il fit le choix des affaires étrangères. Votre mère, qui était-elle ? Côté cuisine, je vais être bref, elle vous traficotait une quiche en balançant sur la pâte ce que le hasard du frigo lui proposait. Alors, un osso buco à la milanaise ou une joue de bœuf sur lit d'oignon, inutile d'y penser. Jusqu'à vos 5 ans, vous n'avez été nourri que de cacha, gruau de sarrasin, et de temps à autre, de confit d'escargot. Mais votre mère avait bien d'autres talents. grande et belle, black aux allures d'Amy Sherald, elle était une très atypique artiste, déjantée et reconnue, qui signait ses œuvres du pseudo Falkinick. Oui, artiste contemporaine et surtout avant-gardiste, elle exposait ses compositions, sculptures et peintures en divers lieux insolites, auréolés de francs succès. Et justement, lors d'un vernissage, elle se fit embarquer par la maréchaussée locale. Cet incident, comme tant d'autres, mais un de trop, avait été généré par sa propension à faire son original, ou sa quiche, si vous préférez. Elle arborait ce jour-là un croc-top en latex, une jupe crayon mal taillée et un serre-tête de strass, tel un ange du paradis. Et dans cet accoutrement, tout à trac, elle sortit sa carabine de foire, semant la panique dans le public, petit bourgeois orthodoxe. Vous étiez pendant ce temps relégué près du village de Cliout, à la ferme des Cagouilles, chez Alette, votre nia-nia nounou locale, improbable et câline. Celle-ci avait le sens de la lignée, originaire d'Angoulême et expatriée en Mandchourie extrême-orientale pour y rejoindre son amoureux descendant de Moujik. Elle s'était plu à reproduire là-bas les liculture traditionnelles des Grossins, ses aïeux charentais. Votre mère fut remise fissa en liberté grâce au réseau de votre père, mais à partir de là, la situation devint acrobatique. Ça ne pouvait plus durer. C'est donc à cette époque, début 1980, que l'épisode russe trouva son terme. Vos parents décidèrent de fuir. Les responsabilités de votre père ne pouvant souffrir davantage de frasques de la part de votre mère, ils s'exposaient tous les deux à de rudes sanctions. La presse locale, pro-étatique, s'en faisait l'écho. J'ai eu accès à certains articles de l'époque, plutôt acerbes et prometteurs. Alors, après quelques détournements fort peu diplomatiques de fonds publics, pour assurer leur avenir immédiat, ils s'exilèrent, ou se réfugièrent plutôt, dans un genre de communauté Monte Verita version 80s. Vous voyez de quoi il s'agit ? Vous avez sans doute entendu parler, comme moi, de ce lieu marginal. Lors des deux premières décennies du XXe siècle, une poignée d'originaux, anticonformistes, voire utopistes, avaient investi une colline sur les hauteurs suisses du lac Majeur. Leurs adeptes s'efforçaient d'y vivre en communion avec Mère Nature, baignés dans l'art sous toutes ses formes et libérés des contraintes bienséantes et des carcans vestimentaires de l'époque. Après une exfiltration plutôt chaotique et risquée, digne d'un John le Carré, c'est un lieu de ce genre que vos parents rejoignirent avec vous au fin fond de la Sardaigne. Régime vegan, fruits et légumes crus ou cuits, point de cuisinage alambiqué. Votre mère pouvait enfin, en toute liberté, oserais-je dire impunité, à moitié nue sous de légères mousselines, s'adonner à son art de peintre plasticienne tireuse d'élite. Et votre père, satisfait de sa propre plastique et exhibant des pectoraux avantageux, s'était mis à faire le danseur. Talentueux, semble-t-il. Musicien aussi, il jouait du piano debout. Cette douce et harmonieuse parenthèse sarde fut de courte durée pour votre petite famille, car votre charmant géniteur eut au fait d'être séduit par une évaporine infomane donnant dans le mysticisme. Il résista peu et mal. Lui et sa belle égérie embarquèrent donc un beau matin sur un frêle batelet à voile, se laissant porter au gré des vents, ni l'un ni l'autre n'ayant d'autre notion de navigation que l'abordage sur canapé. Opportunément récupéré, par forte houle et en détresse, sur un patrouilleur de la marine tunisienne, ils furent débarqués à Palerme. On ne les revit pas. Votre mère restait à quai. Dès lors, bafouée, mélancolique et irritable, elle alla jusqu'à découper un radis noir en rondelles, à l'abri dans l'intimité de son ouvroir secret, comme elle aurait aimé le faire du phallus de l'époux infidèle, tout en éructant une logorée d'une vulgarité excessive. Passons sur cette métaphore douteuse. On est artiste ou on ne l'est pas. Bref, lassée de tout, quelques mois plus tard, elle vous planta là, en plein tressage de Scooby-Doo en fil de chanvre, aux bons soins de la communauté bienveillante. Et pour vous, l'histoire familiale s'arrêta net. « Je reviendrai, » vous promit-elle. Elle vous oublia. Plus tard, et vous en avez quelques souvenirs, vous avez migré dans les malles de vos tuteurs providentiels au gré de leur pérégrination. Les Amériques, Nord et Sud, vous maîtrisez parfaitement l'anglais et itou pour l'espagnol, puis finalement en forêt vosgienne. Immergé dans ces lacs, ces étangs et ces tourbières lacustres, vous en avez pris un soupçon d'accent local. Pour finir, vous m'interrogez à propos de votre prénom. Hasard du calendrier ? Nenni, point du tout. Décision d'originaux plutôt déterminée. Celle de vos parents, éblouis par votre venue inespérée. Si vous voulez mon avis, vous prénommez prodige s'avère un choix plus que judicieux aujourd'hui et non une bévue, considérant la splendide, délicieuse et géniale lady que vous êtes devenue. Benny Barpache, dans « My First Sonny », écrit « Il y en a qui s'habituent à vivre sans bras ni jambes ou avec un rein ou encore un cœur en plastique et on fait toute une histoire au sujet d'un prénom. » À méditer. Voudriez-vous en savoir davantage ? Je reste à votre disposition. Je vous remercie de me faire parvenir, comme convenu, un chèque de 2 700 € pour solde de mes émoluments ou mieux, de déposer la somme de 2 500 € en espèces directement dans ma boîte à lettres. Veuillez recevoir, madame, mes respectueuses et cordiales salutations. PS. Cette année, ellipse de jours d'anniversaire pour vous, comme 3 fois sur 4. Il pourrait néanmoins être fêté dignement cet anniversaire en tête à tête. Disons, samedi soir, qu'en dites-vous ? Je vous invite au Duc de Lorraine. J'attends une substantielle entrée d'argent inopinée et il me serait agréable de vous en faire profiter. PPS, je crains de rentrer un peu plus tard que prévu ce soir, ma chérie. Peux-tu récupérer les enfants à l'école ? De Yolande Demire de Quier, Épiphanie. Il fait beau ce jour-là. La nature s'est mise au diapason de la fête. La petite chapelle blanche à 2 000 mètres d'altitude semble en robe de mariée au milieu des fleurs d'alpage. En contrebas, assise sur le banc devant le chalet, un bébé emmailloté dans les bras, elle regarde les voitures monter sur le chemin qui serpente. L'odeur de la poussière soulevée arrive jusqu'à elle. Ses yeux piquent. Une larme coule sur sa joue qu'elle essuie furtivement en réajustant le voile en tissu sergé de coton qui les recouvre tous les deux, elle et l'enfant. Elle le regarde. Il est presque beau, les yeux fermés. C'est un beau jour. Manquerait plus qu'elle craque. Ça gâcherait. Le bébé Jean, elle ne l'a jamais vu vraiment pleurer. Il a faim, Il cherche. Elle desserre un peu l'étreinte, ouvre son chemisier. Il a trouvé, il gloutonne, sa minuscule main posée sur le sein gonflé. Personne ne fait attention à eux. L'agitation bourdonne autour d'elle. On a sorti de la chapelle la statue de la Vierge, grandeur nature, et quelques chaises bancales qu'il faut épousseter. Pas question de s'enfermer avec un soleil pareil. De toute façon, il y aura trop de monde pour le petit édifice. Ce sera mieux dehors, là, au pied de la petite pente herbeuse. Son homme a apporté du bois pour le feu en plein air. Il servira pour l'office et ensuite on cuira les saucisses dans les braises. Tout va bien. Son cœur cogne dans sa poitrine. Elle s'efforce de le calmer, respire l'air vivifiant, l'odeur de lait aussi. Le petit a lâché le mamelon, repu. Elle se réajuste, ferme les yeux sur son bien-être à lui, espère qu'il va rejaillir sur elle. Au fur et à mesure de l'arrivée des invités, la montagne s'agite. Elle essaie d'éloigner le tumulte, les retrouvailles, les embrassades, la gaieté. Ils sont là, mais personne ne s'approche d'eux. Tous deux hors du temps, hors du monde, inaccessibles. Qu'a-t-elle dit pour qu'on les laisse tranquilles ? Elle ne sait plus. Sa bulle est hermétique et bien verrouillée. Elle en sortira quand elle voudra, quand elle pourra. Écoute, petit, écoute le silence de mon cœur. Ne nous laissons pas distraire par ce chaos. Respire ma présence, comme je goûte à la tienne. Elle devine les regards interrogateurs portés vers eux, les rapprochements vite stoppés par l'homme. Madone à l'enfant, silencieuse et sereine, presque irréelle, juste à l'écart de la vie qui tourbillonne, de l'effervescence du monde. Personne ne doit savoir. Elle lui a fait promettre de ne rien dire. Elle sait qu'il saura esquiver. Soudain, elle se souvient. Ils sont venus pour lui, pour elle, pour eux. Tous ces préparatifs, cette agitation, ce bouillonnement, elle se doit d'y participer. Elle l'a promis, presque souhaité, peu organisée, c'est vrai, mais elle était d'accord. Joconde, aux yeux délavés, elle se lève, laisse à terre le voile tombé, quitte lentement son havre de paix et s'avance vers eux, hiératique, la tête du chérubin reposant sur son épaule dénudée. « On attend le curé, » dit l'homme en s'approchant et lui prenant l'enfant des bras. Elle se sent vide tout à coup, dépossédée, inutile. Mais elle sourit, salue dignement, répond poliment, remercie. Elle reconnaît les parents, les amis, les visages, les sourires, les bras, les mains. Elle est là, a repris le rôle qu'on attend d'elle. Elle marche au milieu du groupe, elle cherche son enfant des yeux. Il profite d'autres bras. Elle n'aime pas ça. Elle a envie de l'arracher à leur serre, à leur bienveillance étouffante, à leurs regards inquisiteurs. Il ne comprendrait pas. Alors elle avance, anesthésiée, portée par le vent qui emmêle ses cheveux libérés sur les cailloux du chemin creux qui blesse ses pieds nus. Ils sont arrivés devant la petite église. Les nuages dessinent un plafond de chapelle Sixtine au-dessus d'eux. Il a pensé à tout. Les bouquets de myosotis qu'elle aime tant, l'eau du ruisseau tout proche, le feu prêt à s'enflammer, les chants accompagnés à la guitare. Et le drap blanc sur lequel il pose son enfant, le sien aussi, elle a tendance à l'oublier. Son petit si fragile, si léger, qu'elle a l'impression qu'il va s'envoler à la prochaine bourrasque. Ce serait bien qu'il devienne un ange, là, au mi-temps du jour, au milieu de tous. Elle n'aurait plus besoin de faire semblant, elle pourrait recommencer à parler, elle pourrait à nouveau aimer son homme, voir plus loin que chaque jour si lourd, l'oublier un peu aussi. À sa place, elle mettrait un oiseau dans son ventre, et chaque fois qu'elle penserait à lui, l'oiseau chanterait. Peut-être même qu'il s'envolerait, et la porterait ailleurs, là où le temps s'arrête, où on veut. Le curé s'affaire, chant, prière, qui lui reviennent en mémoire, qu'elle répète en écho, elle qui pourtant n'a qu'une supplique en tête. Elle regarde, elle écoute, elle fait les gestes qu'on attend d'elle. Depuis toute petite, on lui a toujours répété qu'elle doit se tenir, alors elle tient. Le feu crépite maintenant, l'enfant est là qui s'agite. Elle le reprend en regardant le ciel vide. C'est terminé. L'eau, la lumière, le feu, Dieu s'en est mêlé. Son petit est sauvé, paraît-il. Elle voudrait fuir, s'en aller loin d'ici, là où le film de sa vie reprendrait en flashback avec un scénario modifié. Mais elle est ici, avec lui, alourdie d'amour et de pleurs, de craintes et d'impossible. Autour du chalet, tout est prêt pour les agapes post-baptismum. Elle va et vient, parle un peu et sourit. Elle a déposé le petit dans son couffin sous le sorbier des oiseleurs. Il est tranquille, rassasié. Personne n'a vu les ombres recouvrir la roche d'ardoise, ni les lourds nuages s'amonceler. La pluie qui s'abat sur eux les surprend autant qu'un oracle divin. Chacun récupère ce qu'il peut, les plus costauds rentrent tables et bancs dans l'ancienne étable. Personne ne s'aperçoit qu'elle est restée dehors. Au milieu des cris et des rires, son bébé tout contre elle, elle a soudain envie de danser sous la pluie fine. Elle danse sur l'herbe mouillée, elle danse sous la pluie qui la lave de tous les mots entendus qu'elle refuse, de ce qu'elle tait, de sa démesure muselée, de ses remords, de sa vie qui pleure sur celui qui ne pleure pas. Cette eau du ciel n'aurait-elle pas autant de puissance que l'eau bénite dont il a été aspergé, annonciatrice de quiétude et de liberté, de délivrance et d'harmonie, elle ouvre les vannes du trop-plein de tristesse qui déborde en elle. Il est là, malgré lui, malgré elle. Ils l'ont conçu insouciant, elle l'a porté sans savoir, et en cet instant, il ruisselle avec elle dans la rivière de ses larmes. L'éclaircie arrive, aussi soudaine que l'orage passé. Ils sont sortis, se sont approchés d'elle, inquiets, prévenants. Son homme est arrivé, il les a entourés de ses bras puissants, mère et fils, fusionnés. « Vous êtes mes amours », a-t-il murmuré à son oreille. Étonnés, les invités étaient comme figés. Le paysage lui-même, lavé, se mettait à l'écoute. Alors ils se sont retournés, l'enfant lové dans leurs bras emmêlés. « La nature, » a dit l'homme, « est parfois capricieuse. Elle a cru bon nous faire comme cadeau un ajout. » Cet enfant, notre enfant, porte gravé dans son ADN un 21 augmenté. C'est ce petit détail qui le rend précieux à nos yeux et immense à nos cœurs. C'est lui qui donnera à notre quotidien un air de fête et enchantera nos vies. Deux nouvelles, écrites sur le thème « Un si petit détail » de Corvol Courriel et de Yolande Demirdequier Épiphanie.
C'était Écouter lire, une émission de Radio Alto.